Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination.
Il faut piquer matin, midi et soir. La prescription d'Emmanuel Macron pour accélérer la campagne de vaccination, elle sera ouverte dès samedi aux plus de 70 ans sans comorbidité. 3,5 millions de Français en plus. Suivront aussi les enseignants le mois prochain. Aurons-nous suffisamment de doses? Comment ce coup d'accélérateur va-t-il se mettre en place? Explication dès le début de ce journal. Plus de 4,600 malades ce soir en réanimation. La situation sanitaire se dégrade partout en France. Voilà pourquoi elle exécutif met la pression sur les entreprises pour qu'elles imposent le télétravail. Que ce soit dans le public ou le privé, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous irons à Toulouse où l'université propose à ses étudiants des tests salivaires sur ses campus. Objectif, permettre un retour progressif sur les bancs des amphis en toute sécurité. Dans ce journal également, l'enquête sur la mort de Magali Blandin. Ses proches le disent aujourd'hui, ils ont immédiatement suspecté le mari qui a finalement avoué. Joe Biden veut interdire les fusils d'assaut aux États-Unis au lendemain d'un nouveau massacre. Et l'équipe de France de foot privée de son hôtel préféré à la veille du match face à l'Ukraine. Des employés de l'établissement sont positifs au Covid. La météo, elle sera ensoleillée demain après la dissipation des brouillards matinaux dans l'Est et le Sud-Ouest. En revanche, une petite perturbation va amener quelques nuages en Bretagne, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse pour la troisième séance d'affilée, moins 0,39% à 5945 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Free s'attaque au marché des entreprises, téléphonie, internet, avec des offres deux fois moins chères que la concurrence. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Thomas Reynaud, le directeur général de Free. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un an après le fameux « Nous sommes en guerre », Emmanuel Macron renoue avec le vocabulaire guerrier. Et cette fois, l'arme absolue n'est pas le confinement, mais la vaccination. Le chef de l'État est monté au front aujourd'hui pour répondre aux critiques sur la lenteur de la campagne française. Elle va s'accélérer. Mobilisation générale, lance le président.
Le cœur de la bataille sur les prochaines semaines et les prochains mois, ce sera la vaccination. Matin, midi et soir, je peux vous dire... Je serai mobilisé, le gouvernement sera mobilisé et l'ensemble, je le sais, des professionnels soignants partout en France sera mobilisé dans cette bataille. La priorité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est vacciner les plus vulnérables, les plus âgés et les gens qui ont plus de 55 ans avec un facteur de risque. À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver. Et on sera à ce moment-là dans une situation qui nous permettra en effet d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont... exposés, à qui on demande des efforts, les enseignants en font légitimement partie.
Emmanuel Macron qui s'exprimait depuis une pharmacie de Valenciennes au micro européen de Jean-Rémy Baudot, pharmacie qui, pour la petite histoire, n'a reçu à ce jour qu'un seul flacon de vaccin. Alors on vient de l'entendre, les enseignants pourront se faire vacciner à partir de la fin avril, mais avant cela, dès samedi, les plus de 70 ans sans comorbidité pourront recevoir des injections. Voilà pour les annonces, le plan de bataille. Reste maintenant à l'exécuter, car vacciner matin, midi et soir, comme le demande le chef de l'État, cela suppose de gros moyens humains et surtout des doses. La campagne vaccinale va donc changer de dimension, Victor Delande.
Oui, avec l'ouverture aux plus de 70 ans sans comorbidité de la vaccination à partir de samedi, ce sont 3,5 millions de Français en plus qui sont ciblés. Alors concrètement, comment ça va se passer? Il y aura un numéro de téléphone national dédié aux rendez-vous vaccinaux. Si vous avez plus de 70 ans, vous pourrez réserver une place dans un centre de vaccination pour vous immuniser avec le vaccin Pfizer ou Moderna. Vous pourrez également vous rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre pharmacien. Il vous injectera, lui, le sérum AstraZeneca. Pourquoi ce choix du gouvernement? En fait, selon de nombreuses remontées de terrain, les autorités sanitaires se sont aperçues ces derniers jours qu'il y avait de plus en plus de créneaux disponibles. Et donc, pour ne pas perdre de doses, il faut élargir la cible. Les Français de plus de 75 ans restent toutefois prioritaires. Pour le moment, une personne sur deux âgée de plus de 75 ans a déjà reçu au moins une dose. Mais pour toucher les 50% restants, l'assurance maladie va donc lancer une campagne d'appel téléphonique pour les inciter à se faire vacciner.
Et concrètement, Victor, est-ce qu'on aura assez de vaccins?
Écoutez, c'est aussi pour cette raison que le gouvernement veut accélérer, car il sait que pour le seul mois d'avril, la France va recevoir près de 13 millions de doses, soit autant qu'en février et mars réunis. Il faudra aussi plus de personnel pour vacciner plus vite. Le gouvernement compte notamment sur l'armée et les pompiers, notamment dans les vaccinodromes, pour vacciner plus de Français.
Éclairage signé Victor Dolande pour Europe 1. En attendant que la vaccination s'accélère, la situation sanitaire, elle, se dégrade à vitesse grand V. En Île-de-France, l'ARS demande ce soir aux hôpitaux de se préparer à pousser encore un peu plus les murs. Objectif 2200 lits de réanimation pour les malades Covid contre 1370 aujourd'hui. Est-ce la va nécessiter la déprogrammation de 80% des activités médicales et chirurgicales. Par ailleurs, 42 départements dépassent à présent le seuil d'alerte. Et c'est le double d'il y a 15 jours. Le gouvernement n'exclut pas que les 16 départements actuellement confinés soient rejoints par d'autres prochainement. D'où ce message, martelé une nouvelle fois tout à l'heure par Emmanuel Macron. Mettez-vous au télétravail, c'est l'un des outils les plus efficaces pour éviter les contaminations. Encore faut-il l'appliquer. Alors comme partout, il y a les bons et les mauvais élèves. Le problème, Élise Dangean, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvais élèves.
Oui, alors pour resserrer la vis, le gouvernement réclame aux entreprises des 16 départements reconfinés d'établir un plan d'action écrit qui devra permettre un retour à la règle du télétravail au moins 4 jours sur 5. Sur cette base, l'inspection du travail pourra mener des contrôles, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les petites et moyennes entreprises où les salariés n'en peuvent plus du télétravail. Même situation dans les plus grandes structures, hein, sauf que là, la marge de manœuvre est moins élevée. Prenez le Crédit Agricole, vendredi dernier, une note a été envoyé à tous les salariés du siège parisien pour leur dire « on continue comme avant ». En revanche, le public est toujours à la traîne. Dans les ministères à Paris, on est plutôt sur du 3 jours télétravaillé. Il va donc falloir remettre un coup de collier.
Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Télétravail qui n'est pas neutre pour notre santé mentale. Selon une enquête Opinionway, le nombre de dépressions sévères a doublé chez les salariés depuis un an. Et les plus exposés sont les jeunes télétravailleurs qui vivent dans des logements de moins de 40 mètres carrés. Quant aux salariés en présentiel, ils ne pourront plus compter sur leur pause déjeuner pour se remonter le moral. Un nouveau protocole sanitaire va être mis en place. Il faudra désormais manger en solitaire, à bonne distance de ses collègues, que ce soit au restaurant d'entreprise ou devant son poste de travail. Le gouvernement incite les employeurs à mettre à disposition des paniers repas à emporter pour leurs salariés. La solitude, c'est aussi ce qu'endurent les étudiants depuis de longs mois, avec toutes les conséquences psychologiques que l'on connaît. Alors pour permettre leur retour progressif sur les bancs des amphis, l'Université de Toulouse a installé des centres de dépistage sur chaque campus, des drives, qui proposent des tests salivaires à tous les étudiants qui le souhaitent, Benjamin Péter.
Oui, il suffit de venir un matin, d'avoir sur soi sa carte d'étudiant, sa carte vitale, et on passe dans un box pour faire le prélèvement.
Il va falloir que vous vous toussiez dans votre masque, vous faites remonter de la salive, et ensuite vous allez déposer votre salive dans le tube.
En tout, Lucas, qui est en troisième année de droit, y aura passé 10 minutes juste avant d'aller en cours. Il recevra les résultats dans les 24 heures. C'est la deuxième fois qu'il se fait tester en quelques jours.
J'ai vu quelques amis, donc on s'est fait tester avant et du coup on s'est testé après pour voir s'il n'y a pas de problème. J'aimerais bien essayer d'y aller quand même une fois toutes les semaines ou semaine et demie quand même. Surtout que j'essaye d'aller voir mes parents au moins une fois ou deux fois par mois. J'essaie de faire attention.
Venir se faire tester facilement au moins une fois par semaine, c'est justement ce que souhaite Philippe Rimbaud, le président de l'Université fédérale de Toulouse.
L'idée c'était que pour faciliter le retour des étudiants sur les campus, il fallait avoir la capacité à tester éventuellement massivement. Il nous semblait plus évident de le faire avec les tests salivaires qui sont moins intrusifs. Il y a moins d'hésitation à aller se faire tester et on peut peut-être y aller plus facilement au 1er d'août.
Et en tout, sur les 3 sites des universités, jusqu'à 600 tests par jour peuvent être réalisés actuellement. Des capacités qui pourraient être augmentées en fonction des besoins.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Une enquête a été ouverte à Nantes après la mort d'un étudiant en médecine de 24 ans, quelques jours après avoir été vacciné avec une dose d'AstraZeneca. Une autopsie a été réalisée, des expertises complémentaires sont en cours afin de déterminer les causes du décès. Mais pour l'heure, aucun élément ne permet de conclure que le vaccin a joué un rôle, précise l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Écoutez le monde changer, Europe Soir.
Le 22-22-30.
Le procureur de Rennes en charge de l'enquête sur le meurtre de Magali Blandin a-t-il été laxiste ? La mère de famille avait en septembre déposé plainte pour violence conjugale, plainte qui avait été classée sans suite. Début février, Magali Blandin disparaissait sans laisser aucune trace. Son corps a été retrouvé la semaine dernière après les aveux de son mari, Jérôme Gaillard, qui a reconnu l'avoir tué à coups de batte de baseball. Ce qui n'étonne pas, maître William Pinault, c'est l'avocat des parents et de la sœur de Magali Blandin.
Mes clients ont émis, dès le départ de l'enquête et la disparition de leur fille et sœur, l'hypothèse d'une intervention d'un tiers et singulièrement celle de Jérôme Gaillard. Ils l'ont toujours dit.
Cette fameuse plainte qui avait été déposée au mois de septembre par la fille de vos clients pour violence conjugale, classée sans suite manifestement, qu'est-ce que ça inspire vos clients ?
Ce serait faire beaucoup de grâce à Jérôme Gaillard de laisser entendre qu'il serait un homme violent sous les coups duquel la femme serait tombée après une énième séance de violence qu'il aurait moins contrôlée que les autres. Ça n'est pas un homme violent colérique, c'est déjà terrible et insupportable, c'est un meurtrier qui a froidement élaboré la disparition et l'assassinat de sa femme. Ça n'est pas tout à fait la même chose.
Et par rapport à cette plainte qui a été classée sans suite, est-ce que c'est une erreur de la justice ou pas ?
C'est pas à moi qu'il appartient de le dire, mais le parquet de Rennes n'était pas tout à fait suspect de mollesse à l'égard des personnes suspectes de violence conjugale. Mes clients, en tout cas, n'ont pas de commentaires par rapport à cela, considérant que ça n'est pas tout à fait le problème de ce dossier.
L'avocat des parents et de la sœur de Magali Blandin au micro de Charles Guyard pour Europe 1. De son côté, le procureur de Rennes se défend de tout laxisme. L'intensité des faits à l'époque ne justifiait pas un renvoi devant le tribunal correctionnel. J'en assume pleinement la responsabilité, répond le magistrat. Près de 7 ans après la mort de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivens dans le Tarn, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu en faveur du gendarme, auteur du tir de grenade qui a tué le militant écologiste. Sa famille voit donc réduit à néant ses espoirs d'obtenir le procès public qu'elle réclame. Elle va toutefois saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Aux États-Unis, une tuerie, une de plus, a fait 10 morts hier dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado. Une semaine après un autre massacre, 8 personnes assassinées à Atlanta. Trop, c'est trop pour Joe Biden. Le président américain a pris la parole depuis la Maison-Blanche. Il appelle le Congrès à renforcer le contrôle sur les armes à feu.
Nous devons agir. Je n'ai pas besoin d'attendre 1 minute de plus et encore moins 1 heure pour prendre des mesures de bon sens afin de sauver des vies à l'avenir. Et j'exhorte mes collègues de la Chambre et du Sénat à agir. Nous pouvons interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité dans ce pays. Le Sénat doit immédiatement adopter les 2 projets de loi validés par la Chambre qui comblent les lacunes du système de vérification des antécédents. Ce n'est pas et ne devrait pas être une question partisane, c'est une question américaine. Cela sauverait des vies américaines.
Joe Biden qui, par ailleurs, participera jeudi soir en visioconférence au sommet des 27 de l'Union européenne. Objectif, reconstruire l'alliance transatlantique après Donald Trump. Et puis en Israël, on votait aujourd'hui, 4e élection législative en 2 ans, qui a pris encore une fois l'allure d'un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, qui est en tête selon les sondages à la sortie des urnes. Son parti, le Likoud, obtiendrait 30 sièges sur les 120 de la Knesset. On termine avec le foot et ce match que l'on suivra demain soir sur Europe 1. France-Ukraine, début de la campagne de qualification pour le Mondial 2022. Des Bleus dont le programme a été quelque peu perturbé. Les joueurs de Didier Deschamps devaient rejoindre aujourd'hui un hôtel d'Enghien-les-Bains où ils ont l'habitude de séjourner avant de se rendre au Stade de France. Mais le Covid s'est invité dans l'établissement. C'est donc depuis Clairefontaine que l'équipe de France prépare son match. Et mis à part ce petit changement, tout va bien pour les Bleus, Cyril de la Morinerie.
Oui, tout va bien, même si cela perturbe les plans de Didier Deschamps, qui n'aime pas les imprévus. Le séjour à Enghien-les-Bains a effectivement été annulé. Plusieurs employés de cet établissement, très appréciés des champions du monde, ont été testés positifs au Covid-19. Tous les bagages ont donc été réexpédiés à Clairefontaine. Les joueurs restent dans leur bulle, dans les Yvelines, où la préparation est chamboulée. Les Bleus n'ont pas pu s'entraîner au Stade de France, où il est toujours bon de prendre ses marques avant un grand rendez-vous. Mais le sélectionneur se veut philosophe.
Comme dans toute situation, on s'adapte. Et même si il y a la satisfaction de pouvoir être ici dans le cadre de Clairefontaine où on a tout à disposition, mais l'inconvénient, le jour du match, d'avoir un trajet en bus un peu long où parfois il peut y avoir des joueurs qui peuvent se sentir un peu perturbés. Mais je ne vais pas dire que c'est mieux, mais on va faire avec.
Pour le reste, les joueurs sont tous négatifs au Covid-19 et en bonne forme malgré l'enchaînement des matchs. Didier Deschamps estime que l'Ukraine est une bonne nation et qu'il ne faut pas se fier à la victoire fleuve 7-1 infligée en octobre dernier à la formation d'Andrei Shevchenko. Le sélectionneur devrait donc logiquement aligner sa meilleure équipe demain soir au Stade de France.
Cyril de la Morinerie qui nous fera vivre ce France-Ukraine demain soir sur Europe 1. La météo, Anissa Dadi, il y aura de la fraîcheur demain matin.
Oui, alors même si la matinée, Julien, s'annonce encore très ensoleillée demain, c'est vrai que les températures restent encore bien fraîches, en dessous des normales de saison, avec de nombreuses gelées matinales. Moins 4 degrés dans l'Allier à Montluçon, moins 3 à Charleville-Mézières, moins 2 pour Manosque, moins 1 à Nancy, 0 degré pour Poitiers, 1 petit degré à Lyon, 3 à Paris et Quimper, 4 pour Ajaccio, 7 degrés à Nice, ça c'est la maximale pour le matin. Et puis dans l'après-midi, ça va grimper un petit peu. Il fait vraiment de plus en plus doux demain, avec 12 degrés à Dunkerque, 13 à Lorient, 14 à Vannes, 15 degrés à Nice, 16 degrés pour Lille et Belfort, ça change, hein. 17 à Strasbourg, Paris et Montpellier, 18 degrés pour Marseille et Lyon, 19 à Bordeaux. Et la maximale de 20 degrés est prévue pour Auch et Avignon. Alors dans le ciel, nous avons un soleil qui domine demain, hein, sur tout le pays, avec sur la pointe bretonne l'arrivée d'une petite perturbation, vraiment quelques petites gouttes sur le nord de la Bretagne. Et puis, dans la matinée, toujours ces brouillards localisés sur la Bourgogne, le Val-de-Saône et le Pays Basque. Donc soyez prudents demain matin, mais très vite, le soleil va prendre le pouvoir. Profitez-en.
Merci beaucoup, Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview éco. Free s'attaque au marché des entreprises, téléphonie, internet, avec des offres deux fois moins chères que la concurrence. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit dans quelques minutes maintenant Thomas Reynaud, le directeur général de Free. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street a déjà reperdu le terrain gagné hier dans le sillage de la rechute du pétrole.
Ça retombe déjà, oui, c'est très fébrile. Le Dow Jones, moins 0,94%, 32 423 points. Le Nasdaq perd plus d'1%, 1,12%, il retombe à 13 227 points. Et pourtant, les taux d'intérêt, les taux long terme se sont plutôt stabilisés sur les 1,6% sur l'emprunt à 10 ans américain. La Réserve fédérale, par la voix de son patron Jérôme Powell, n'a pas vraiment apporté d'éléments nouveaux concernant les craintes de résurgence de l'inflation. En fait, c'est la virulence de la troisième vague épidémique en Europe qui inquiète beaucoup les économistes, qui voient un risque, un vrai risque pour la reprise de l'activité mondiale. Du coup, donc, les cours du pétrole retombent encore assez lourdement ce soir, moins 6%. Les cours du brut qui avaient déjà perdu 6% la semaine dernière, ça revient à $57,75 le baril WTI. Et Exxon donc perd encore du terrain ce soir, moins 1,2%, $55,22. Alors on a tout le secteur de l'aérien qui part un petit peu à volo, hein. Boeing moins 4%, $241. C'est assez logique puisqu'il y a une crainte sur les déplacements, les vols long courrier. On a American Airlines en baisse de 6%, United Airlines moins 6,8%, Delta Airlines moins 4,8%. Donc il y a de la casse, hein, ce soir sur le secteur aérien américain. Les technologiques en baisse, même si là les replis sont plus limités. Apple moins 0,7% à $122,54, Facebook moins 1%. $290,63. Tesla, moins 1,1%, $662. L'euro aussi, c'est un des perdants du jour. L'euro revient à 1,1850 sur ses craintes de l'activité, donc sur les craintes de, concernant la croissance. On est à 1,1850 face au dollar ce soir.
La Bourse de Paris a aligné, quant à elle, une troisième séance de baisse consécutive.
Oui, ça baisse à moins 0,39%. Troisième séance de repli. 5 945 points sur le CAC 40. Les inquiétudes sanitaires en Europe continuent de peser sur la tendance, en particulier en Allemagne et en France. À Paris, donc, on a le secteur automobile qui subit des dégagements. En fait, comme les jours précédents, ce sont les secteurs sensibles à l'activité économique qui reculent. On a Renault, moins 3,5%, Stellantis, moins 3,5% aussi, les équipementiers automobiles, Plasticomium, moins 5%, Faurecia, moins 4%, Valeo, moins 2,5%, 28,37€, et puis le secteur pétrolier, Vallourec, moins 2,5, donc dans le sillage du baril de Brut. CGG, moins 2,5 aussi. Total, moins 0,7%, 39,44 euros.
Exception du jour, le titre JC Deco qui est remonté de plus de 3%.
C'est un petit peu la surprise du jour. Il n'y avait pas beaucoup de valeur à la hausse. Il y a quand même JC Deco, le spécialiste de la communication extérieure, oui, qui grimpe de 3,3% exactement. 21,28 euros à la clôture ce soir. C'est le broker Berenberg qui a réveillé le titre en estimant que la valeur avait trop baissé en bourse. Berenberg a revu son objectif de cours de 18 à 28 euros en anticipant un redressement des comptes de JC Deco dès cette année. Donc ça donne une forte hausse de la valeur ce soir de 3,3% à la clôture. 21,28 euros. Les autres places financières sont assez lourdes. Bruxelles, moins 0,4%. Milan perd 0,6%. Amsterdam, moins 0,36%. Et donc le CAC 40 encore en baisse. Troisième séance de repli, moins 0,39%. 5 945 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Thomas Reynaud.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Free. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous avez présenté ce matin votre offre à destination des entreprises avec l'ambition, je cite Xavier Niel, le patron de Free, de révolutionner un marché largement dominé pour le moment par Orange. Révolutionner, ça veut dire surtout faire payer moins cher, non ?
Non, c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, on a un marché entreprise en France qui est verrouillé et il y a un vrai enjeu qui est d'accélérer la digitalisation des entreprises françaises. Vous savez, nous sommes en retard, nous sommes au 11e rang européen. Je vais donner un autre exemple par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne a deux fois plus de TPE et de PME digitalisées que la France. Et du coup, il y a un enjeu et c'est ce que l'on souhaite faire, c'est apporter un choc de simplicité, un choc d'innovation et aussi, vous avez raison, sur les prix.
Mais ça commence quand même avant tout par le prix. Vous, ça va être 50 euros. Bon, c'est compliqué de savoir exactement pour comparer, mais on va dire que c'est au minimum deux fois moins.
C'est plus de deux fois moins cher que les offres comparables. Et si vous prenez l'exemple d'une PME avec 10 salariés, c'est une économie de plus de 1500 euros par an. C'est tangible. Mais c'est aussi, et au-delà du prix, et on peut comparer, ce n'est pas si difficile. C'est bien évidemment le meilleur de la connectivité avec la fibre, la 5G. C'est aussi la sécurisation des données. Et on sait que c'est un enjeu pour les entreprises. On le voit avec les cyberattaques, le ransomware. Et du coup, c'est la possibilité de sécuriser ces données à la fois sur le disque dur de la Freebox Pro, mais aussi une synchronisation automatique dans le cloud sur nos data centers qui sont tous localisés en France. C'est aussi la possibilité de maîtriser ces dépenses et la fiabilité de la connectivité que l'on propose.
Alors, au-delà du prix, malgré tout, on entend là que vous proposez des choses différentes, mais vous avez utilisé un mot, Thomas Reynaud. Vous dites que ce marché est verrouillé. Ça veut dire quoi, verrouillé ?
Mais verrouillé. Alors déjà, c'est lorsque j'utilise cette expression un marché verrouillé, je reprends les termes d'une enquête parlementaire qui a eu lieu au mois de janvier, un rapport parlementaire qui a été écrit, qui n'a pas été écrit par n'importe qui, par Laure de la Raudière, qui est la nouvelle présidente de l'ARCEP. Et qui
L'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms.
Voilà, c'est un peu le grand paradoxe des télécoms en France. On a d'un côté un marché grand public très performant. Nous sommes le pays le plus fibré d'Europe, avec des prix très attractifs pour nos citoyens. Et par ailleurs, on a un marché des entreprises qui est en retard par rapport au reste de l'Europe, qui se caractérise aussi par des offres avec engagement sur 24-36 mois à la concurrence, qui sont parfois peu évolutives. Et là où on essaye aussi de venir déverrouiller ce marché, c'est qu'une des caractéristiques de notre offre, c'est qu'elle est sans engagement. Et ça, je pense qu'en temps de crise, pour les entrepreneurs, pour les professions libérales, les PME, TPE, mais aussi pour les grandes entreprises, c'est un élément qui est important.
Quelles sont vos ambitions, du coup, sur ce marché ?
Nos ambitions, c'est d'être au rendez-vous. De la simplicité, de l'innovation. C'est aussi très rapidement, à horizon 2024, prendre 5% de part de marché. Alors, ça va vous paraître peut-être pas suffisamment
ambitieux. Oui, c'est ça. On dit quand on veut révolutionner, c'est une petite révolution, là.
On s'inscrit dans le temps long. On sait que les entreprises auxquelles on s'adresse sont justement verrouillées dans des contrats à long terme, mais on souhaite apporter ce choc le plus rapidement possible. Et sinon, je peux vous parler en termes de génération de chiffre d'affaires et générer environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce segment entreprise à horizon 2024.
Pendant très longtemps, vous avez dit, nous, le marché des des entreprises, ce n'est pas pour nous. Nous, on est là pour le grand public, c'est ça que nous savons faire, c'est un autre métier. Vous avez changé d'avis ou vous n'arrivez plus à gagner assez de clients sur le marché grand public, hein ?
Non, nous n'avons jamais tenu ce discours. C'est vrai qu'on a mis du temps pour revenir sur
le
marché.
Vous avez quand même souvent dit que c'était en tout cas au minimum pas votre priorité.
Nous avons lancé notre première Freebox il y a 20 ans maintenant. Nous avons révolutionné le marché du mobile il y a 10 ans et il est temps pour nous de venir adresser ce marché entreprise grâce à la puissance de notre organisation. Nous avons plus de 10 000 collaborateurs en France, 1 000 techniciens installateurs de fibres en entreprise qui vont se déplacer chez nos clients entreprises et nous avons 20 millions de locaux fibrés en France et à la fin de l'année prochaine, ça sera plus de 30 millions de locaux fibrés. Alors, donc il était temps pour nous de venir aussi démocratiser le marché entreprise. C'est vraiment en ligne avec l'histoire de Free depuis 20 ans.
Ce qui est très attendu par les entreprises, mais par tout le monde, c'est le déploiement de la 5G. Vous êtes assez en avance sur le développement des antennes. Mais attention, vous développez aussi beaucoup d'antennes qui sont, selon certains, une sorte de sous-5G, puisque ce sera beaucoup moins puissant.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah, vous avez les deux technologies, on ne va pas rentrer dans le détail des mégahertz, mais vous développez comme tout.
Mais c'est important. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que nous mettons la 5G sans surcoût à disposition de nos abonnés avec le plus grand réseau 5G de France en nombre de sites et que nous déployons les deux types de fréquences. Les fréquences qui permettent une très bonne couverture à l'intérieur des bâtiments et celles aussi qui permettent un débit élevé. Et sur ces deux types de fréquences, nous faisons la course en tête.
Vous en êtes où des abonnements ?
Nous avons lancé notre offre fin décembre et avec un accueil très favorable de la part de nos abonnés. Hélas, nous n'avons pas pu ouvrir partout sur le territoire français. Nous venons juste d'ouvrir à Paris la semaine dernière. Nous avons trouvé un accord avec la mairie de Paris pour avoir le droit d'émettre sur nos antennes. Et tout cela est assez progressif, mais avec un superbe succès auprès de nos abonnés qui voient clairement la différence par rapport à la 4G.
Un grand merci Thomas Reynaud. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Free. Nous, on se dit à demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag et vous allez vous essayer aux jeux vidéo, un secteur qui ne connaît pas la crise. Votre invitée, Marie-Sophie de Vaubert, la directrice générale d'Ubisoft France.
C'était l'invité écho avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les échos, le plan d'urgence des hôpitaux face à la nouvelle vague. Je vous en parlais dans le journal. L'ARS d'Île-de-France a demandé aux hôpitaux franciliens de libérer encore une fois de la place pour accueillir davantage de malades du Covid. L'objectif n'est plus d'atteindre 1577 lits en réanimation, mais 2200 dans l'ensemble de la région, c'est considérable. Et ça va surtout engendrer une déprogrammation de 80% des activités médicales et chirurgicale. Ouest France revient pour sa part sur ce que le journal titre « Le coup de pression sur les vaccins, vaccination des septuagénaires dès samedi, des enseignants courant avril, appel à domicile pour proposer des rendez-vous, ouverture de méga-centres, il était temps », s'exclame Vincent Trévolet de Villers dans le Figaro. Enfin, on ouvre les vaccinodromes. Enfin, il n'y a plus de week-end ni de jours fériés pour recevoir la précieuse injection. Enfin, les limites d'âge se réduisent. Enfin, la détermination et la logistique semblent aller de pair. Alors certes, ajoute l'éditorialiste, il nous a fallu des mois. Certes, nous installons au printemps ce que d'autres, notamment les Anglais, ont commencé au début de l'hiver. Mais à quoi bon pleurer sur le vaccin renversé ? En parallèle, Vincent Trémollet de Villers demande à l'exécutif d'arrêter sa gesticulation politique, que l'on sorte par pitié de l'office hebdomadaire, conseil de défense décisive du mercredi, conférence de presse bavarde et anxiogène du jeudi soir. Un édito conclut sur ces mots, plus de vaccins, moins de baratin. Et c'est exactement ce que demande Rémi Godot dans l'Opinion. Il faut parler moins et vacciner plus, écrit l'éditorialiste, visiblement agacé par les cafouillages de ces derniers jours. Une troisième voie impénétrable, un slogan énigmatique, freiné sans enfermer, une attestation digne de Kafka, une communication tellement désastreuse que l'efficacité des nouvelles restrictions s'en trouve menacée. Voilà pourquoi Emmanuel Macron s'est déplacé à Valenciennes aujourd'hui pour fixer un cap sur la vaccination. Voilà pourquoi Jean Castex a revu son slogan qui est désormais « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Un rattrapage maladroit, une infantilisation extrême, juge l'éditorialiste, d'où cette demande. Parlez moins, vaccinez plus.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.